en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce Lachenardière.
Marivaux, un philosophe et l'amour, un cycle de 4 émissions préparé et présenté par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. Pour la prise de son et la réalisation, Lucien Pénaud. Aujourd'hui, nous voyons les journaux de Marivaux avec François Regnault, agrégé de philosophie, maître de conférences honoraires à Paris 8 au département de psychanalyse et collaborateur au théâtre de Patrice Chéreau, de Brigitte Jacques Wagemann et Emmanuel de Marcy-Motta, entre autres. Pour la musique, ce sont des extraits de Zoroastre de Jean-Philippe Rameau qui nous accompagneront. Marivaux ne fut pas seulement dramaturge, pas seulement romancier, pas seulement académicien, il fut aussi, et ce n'est pas le moindre de ses mérites, journaliste. Il fonda et rédigea plusieurs feuilles, ainsi appelait-on les journaux au XVIIIe siècle, Le Spectateur français qui parut de 1721 à 1724, L'indigent philosophe, qui dura le temps d'un printemps, celui de 1727, et Le cabinet du philosophe, de 1733 à 1734. Ces journaux permettent à Marivaux d'approfondir son étude des agissements du cœur et de l'esprit. Nous les lisons donc pour ce qu'ils sont, les essais philosophiques d'un moraliste. François Regnault, bonjour.
Bonjour.
À l'âge de 17 ans, je m'attachais à une jeune demoiselle à qui je dois le genre de vie que j'embrassais. Je n'étais pas mal fait alors, j'avais l'humeur douce et les manières tendres. La sagesse que je remarquais dans cette fille m'avait rendu sensible à sa beauté. Je lui trouvais d'ailleurs tant d'indifférence pour ses charmes que j'aurais juré qu'elle les ignorait, que j'étais simple dans ce temps-là. Quel plaisir, disais-je en moi-même, si je puis me faire aimer d'une fille qui ne souhaite pas d'avoir des amants, puisqu'elle est belle sans y prendre garde, et que par conséquent, elle n'est pas coquette. Jamais je ne me séparais d'elle que ma tendre surprise n'augmenta de voir tant de grâce dans un objet qui ne s'en estimait pas davantage. Était-elle assise ou debout? Parlait-elle ou marchait-elle? Il me semblait toujours qu'elle n'y entendait point finesse et qu'elle ne songeait à rien moins qu'à être ce qu'elle était. Un jour qu'à la campagne je venais de la quitter, un gant que j'avais oublié fit que je retournais sur mes pas pour l'aller chercher. J'aperçus la belle de loin qui se regardait dans un miroir, et je remarquai, à mon grand étonnement, qu'elle s'y représentait à elle-même dans tous les sens où, durant notre entretien, j'avais vu son visage, et il se trouvait que ses airs de physionomie, que j'avais cru si naïfs, n'étaient à les bien nommer que des tours de gypsière. Je jugeais de loin que sa vanité en adoptait quelques-uns, qu'elle en réformait d'autres. C'étaient de petites façons qu'on aurait pu noter et qu'une femme aurait pu apprendre comme un air de musique. Je tremblais du péril que j'aurais couru si j'avais eu le malheur d'essayer encore de bonne foi ses friponneries, au point de perfection où son habileté les portait. Mais je l'avais cru naturel et ne l'avais aimé que sur ce pied-là, de sorte que mon amour cessa tout d'un coup, comme si mon cœur ne s'était attendri que sous condition. Elle m'aperçut à son tour dans son miroir et rougit. Pour moi, j'entrai en riant et ramassant mon gant. « Ah, mademoiselle, je vous demande pardon, lui dis-je, d'avoir mis jusqu'ici sur le compte de la nature des appâts dont tout l'honneur n'est dû qu'à votre industrie. » « Qu'est-ce que c'est? Que signifie ce discours ? » me répondit-elle. « Vous parlerai-je plus franchement ?» lui dis-je. « Je viens de voir les machines de l'opéra. Il me divertira toujours, mais il me touchera moins. » Je sortis là-dessus, et c'est de cette aventure que naquit en moi cette misanthropie qui ne m'a point quitté et qui m'a fait passer ma vie à examiner les hommes et à m'amuser de mes réflexions.
Le spectateur français, extrait de la première feuille. François Regnault, qu'en pensez-vous ?
C'est un texte qui est caractéristique de, on pourrait dire, à la fois du théâtre de Marivaux, de sa position à l'égard de l'espèce humaine et de sa position à l'égard de l'amour, puisque il faut remarquer d'abord que c'est dans un journal. Vous avez dit tout à l'heure journaliste, c'est un journaliste d'une curieuse espèce, puisqu'il ne rend pas compte du tout de l'actualité. Il est journaliste au sens où il écrit des journaux. Et d'ailleurs, tous ces journaux qui ont été recueillis dans l'opuscule malheureusement introuvable aujourd'hui que Frédéric Deloffre, le grand spécialiste de Marivaux, a édité, qui s'appelle « Journaux et œuvres diverses », et dans lequel, en effet, il y a les textes que vous avez cités, « L'indigent philosophe »,« Le spectateur français », etc. Et il faut partir du principe d'abord que son modèle est anglais. Le spectateur français, c'est quelque chose qui répond français, ça veut dire le spectateur tel qu'on va le rédiger en français, par opposition au spectateur des deux auteurs anglais qui s'appellent Addison et Steele et qui ont publié vers les années 1710 un immense journal qui était une feuille par jour à peu près et qui rendait compte de un petit peu de l'actualité mais surtout des mœurs. Et il faut insister sur cette notion des mœurs puisque ce que Marivaux donne dans tous ses journaux et œuvres diverses, dans tous les textes d'ailleurs que nous aurons l'occasion de rencontrer, ce sont des considérations sur les mœurs. C'est une espèce d'essai sur les mœurs, c'est-à-dire il regarde la vie mondaine, de préférence à la ville, plutôt qu'à la campagne, malgré le fait qu'un certain nombre de ses pièces se passent à la campagne. Il décrit les mœurs des uns et des autres, des hommes et des femmes, de la population dans la rue, mais aussi du cœur humain, c'est-à-dire on est aussi bien dehors que dedans. Et là, ce que vous venez de lire, c'est le récit d'un jeune homme qui vient de quitter la femme qu'il aime et qui revient et qui la surprend en train de minauder devant un miroir. Et ça le conduit à cesser tout d'un coup toute relation amoureuse avec elle, ce qui est tout de même...
À minauder,
répéter ses gestes, ce qu'il appelle les machines de l'opéra.
Voilà.
Et faire passer gypsière, comme il dit, c'est-à-dire une prestidigitation où on cache... Dans la gypsière, on cache quelque chose qu'on fait disparaître, un escamotage. Et évidemment, on retrouve le Marivaux du théâtre, si on connaît le théâtre de Marivaux, on retrouve tout à fait le Marivaux d'inquiétude constante des amants les uns à l'égard des autres à propos de l'amour. Mais ici, il faut voir qu'il prend l'attitude de ce qu'il appelle souvent un philosophe, y compris là un peu misanthrope. C'est-à-dire, il considère les mœurs de loin, il les regarde de loin, il essaye de les décrire comme s'il n'était pas tout à fait partie prenante de cette espèce humaine qu'il considère avec une certaine affection, mais avec aussi une certaine méfiance. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est conforme, évidemment, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire, citons ce qui l'entoure, vous avez les lettres anglaises de Voltaire qui précèdent un peu, qui racontent la fascination d'un Français pour la liberté anglaise, pour l'empirisme anglais, pour le fait qu'en Angleterre, on est moins. Quand on est philosophe en Angleterre, ça veut dire aussi qu'on est empirique et qu'on considère les mœurs et qu'on parle des considérations sur les mœurs beaucoup plus que de métaphysique. On est moins métaphysicien qu'en France. Mais on peut lier ça à l'immense essai sur les mœurs que Voltaire, peu ami de Marivaux, va quand même rédiger. On rencontre un peu partout dans toute la philosophie ou chez les philosophes du XVIIIe siècle cette attitude, on pourrait dire, de curiosité à l'égard de l'espèce humaine qui va jusqu'à s'intéresser évidemment au sauvage, au mythe du bon sauvage, c'est-à-dire comment les hommes vivent lorsqu'ils ne sont pas dans la société telle que la nôtre, comment les hommes vivent à l'état de nature, comment les hommes vivent quand ils sont dans les forêts au lieu d'être dans les villes, etc. etc. Alors là, on pourrait ouvrir sur tellement, tellement de textes du XVIIIe siècle que je ne peux pas les citer tous, mais aussi cette question, comment les hommes vivent devant nous, c'est-à-dire comment vivent-ils, est-ce ainsi que les hommes vivent, pour prendre la chanson d'Aragon. Comment vivent-ils? C'est-à-dire le regard curieux sur des mœurs qui sont tout à fait pourtant les nôtres. Et on rencontre ça constamment chez lui. Donc dans les journaux, œuvres diverses que vous citiez, son attitude est un peu toujours la même, celle de quelqu'un qui se plaît à regarder ses semblables avec un certain étonnement, quelquefois une réprobation, mais pas vraiment une réprobation, beaucoup plus une espèce d'affection curieuse, de gentillesse. On découvre, il me semble, au travers de tout cela, quelque chose qui devait être le propre de lui. Vous savez, on sait peu de choses sur sa vie. Malgré tous ces immenses journaux et considérations sur les œuvres écrites et aussi sur les mœurs, il ne se livre jamais lui-même. On n'a pas de correspondance de lui, sauf quelques lettres, quelques préfaces de pièces de théâtre. Et tout le reste est de l'ordre de la fiction, c'est-à-dire ou bien des romans inventés, ou bien des pièces de théâtre inventées, ou bien ces choses qui sont inventées, nous n'avons aucune certitude que le récit que vous venez de lire soit vrai. Enfin, je veux dire, il est vrai au sens de la vérité selon Marivaux, mais nous n'avons aucune certitude du fait que ce lui soit arrivé. Nous ne connaissons rien de ses amours, rien de ses affections, rien de ses fréquentations, rien de ses passions. Et il y a toujours une espèce de vitre, un peu de miroir entre nous et lui qui nous sépare de lui à tout jamais et qui en même temps nous le rend tout de même particulièrement fascinant parce que nous avons envie de passer de l'autre côté du miroir. Mais nous aurons peut-être l'occasion de revenir dessus parce que l'image du miroir et l'image de la vitre et l'image de la distance qu'il y a entre ce qu'il décrit et c'est lui-même, mystérieux et tout à fait fondamental dans son œuvre, me semble-t-il. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est évidemment qu'on s'étonne que les manigances, les minauderies de la jeune fille lui déplaisent. On serait en droit de dire, dans tout le théâtre de Marivaux, les jeunes gens, les jeunes hommes ont en général une fascination pour tout ce que font les jeunes filles. Enfin, du moins certains jeunes gens pour certaines jeunes filles, mais on ne peut pas dire que dans Marivaux, le fait qu'une fille se maquille, qu'elle s'apprête, qu'elle minaude, qu'elle fasse des gestes, etc., soit détestable. Au contraire, tout le charme des héroïnes de Marivaux vient de ce qu'elles sont constamment en représentation d'une certaine façon, mais que leur charme vienne aussi de ce qu'elles bougent, de ce qu'elles remuent, de ce qu'elles se meuvent, de ce qu'elles font des plissent des yeux, de ce qu'elles ont des mouches. Dans la double inconstance, ça me vient ici à l'esprit puisque j'ai travaillé un peu avec Christian Collin qui vient de monter la double inconstance en ce moment et qui se joue au théâtre de Chaillot. Il y a toute une scène sur la mouche et on supplie l'une des suivantes, l'une des jeunes filles, de d'ôter ses mouches pour plaire à Arlequin qui lui est censé être sensible aux jeunes filles fraîches et naturelles contre les jeunes filles apprêtées. Mais on ne peut pas dire que Marivaux est, encore une fois, une réprobation pour les jeunes filles apprêtées, ni pour les charmes féminins, mais, ni pour Lacan appelait la mascarade féminine en disant qu'il ne fallait certainement pas la voir d'un mauvais œil, que c'était une faute morale, en essence, de voir la mascarade féminine d'un mauvais œil. Alors ici, c'est pour ça que l'attitude philosophique et un peu misanthropique du texte du journaliste, du pseudo-journaliste qu'est Marivaux, dans le texte que vous avez lu sur le miroir, est un peu surprenant, parce qu'on serait en droit de lui dire « Mais écoutez, si vous avez été sensible au charme directement, pourquoi lui reprochez-vous de les avoir préparés, de les avoir répétés ?» Et il y a évidemment là, on débouche sur une problématique tout à fait beaucoup plus fondamentale sur la vérité et le mensonge, sur l'apparence et la vérité, qui fait que on est en droit de se demander, après tout, si au travers des manigances et de la mascarade féminine, il n'y a pas une espèce de métaphysique de la vérité qui l'inquiète, mais dont il nous fait plus part dans ses journaux que dans son théâtre.
Le narrateur estime que l'apparence que lui offre la jeune fille est une image étudiée et par là frelatée. Or, dans la cinquième feuille du Spectateur français, le spectateur narrateur affirme que, je cite Marivaux, « En vérité, à cela près que nous vivons et que nous pensons, nous sommes tous des tableaux les uns pour les autres. » Tel est un Raphaël, un tableau du plus grand prix, je veux dire un homme plein d'esprit et de talent. Si le hasard ou la naissance l'a mal exposé, c'en est fait, il a beau nous voir, nous parler tous les jours, voilà notre discernement en défaut sur son compte. Rien ne nous avertit de ce qu'il vaut, la médiocrité de son état l'enveloppe, pour ainsi dire, d'un nuage qui nous le dérobe. C'est un personnage inutile, confondu dans la foule que nous méprisons. Marivaux, Le Spectateur français, cinquième feuille. On voit par là que les apparences sont ce qui nous révèle aux yeux des autres. Peut-on les négliger? Ne doit-on pas cultiver notre apparence avec autant de soin que l'on cultive son esprit?
Oui, il est fasciné par les apparences. Et sans doute parce qu'il est fasciné par la vérité, il est aussi fasciné par les apparences. Alors, nous sommes des tableaux, le texte est tout à fait étonnant, c'est-à-dire nous ne regardons les uns les autres et nous sommes que des tableaux les choses. Alors, évidemment, là, il cite des très grands peintres à ses yeux aussi, et on serait en droit de dire c'est une apparence de vérité, un grand peintre peint la vérité. Mais l'idée d'appeler spectateur, bon, c'est encore une fois titre emprunté aux journalistes anglais, est tout à fait fondamental chez lui, puisqu'il se conçoit comme spectateur du monde dans ses journaux et œuvres diverses. Et quelque chose qui est dans un texte qui s'appelle Le Monde Vrai, auquel on aura peut-être l'occasion de revenir, je vois quelqu'un lui dit « Mais vous faites des considérations misanthropiques sur le monde, je vous plains de les avoir faites. » Réponse « Moi, point du tout, vous vous trompez, je ne saurais vous exprimer le repos, la liberté, l'indépendance dont je jouis. Je n'ai jamais été si content, je ne me suis jamais diverti de si bon cœur que depuis ma découverte. Je suis à la comédie depuis le matin jusqu'au soir. » Alors, je suis à la comédie depuis le matin jusqu'au soir, c'est presque le contraire du jeune homme découvrant que la jeune fille truque ses mines. Là, c'est presque le Marivaux dramaturge qui parle. Je suis à la comédie du matin jusqu'au soir, cette espèce de goût de représenter dans la fiction quelque chose qui va toucher à la vérité, quelque chose qui est constamment dans son théâtre, et qui fait que il est difficile de saisir le rapport qui peut y avoir entre son théâtre d'un côté, et puis ses journaux de l'autre, et puis d'un troisième côté, les romans par ailleurs, qu'il écrit, comme La vie de Marianne, Le paysan parvenu, etc. Et de se demander comment le même homme peut à la fois avoir des capacité d'écrire des œuvres géniales aussi diverses. Il est très rare qu'un très grand dramaturge de théâtre fasse aussi des romans. Il est très rare qu'un grand romancier réussisse dans le théâtre. C'est un des rares exemples, me semble-t-il, avec, je ne sais pas, des gens comme peut-être Jean Genet ou d'autres, d'avoir réussi dans le roman et réussi dans le théâtre. Et réussi complètement, c'est-à-dire La vie de Marianne est un chef-d'œuvre absolu.
Le paysan parvenu aussi.
Le paysan parvenu aussi. Et le théâtre, personne ne contestera que le théâtre ne soit absolument fascinant, sauf Voltaire, dont j'ai relu une fois de plus que c'est lui, j'avais oublié que ce fut lui, mais que c'est Voltaire qui disait que c'était peser des œufs de mouche sur des toiles d'araignée. Et Voltaire n'aimait pas...
C'est ce qu'il disait du théâtre de Marivaux ?
Oui, c'est ce qu'il disait du théâtre de Marivaux, et j'ai lu d'ailleurs que Marivaux avait été élu à l'Académie française... contre Voltaire. Donc Voltaire n'avait pas dû lui rendre très content,
oui.
Grâce à Madame de Tencin. Voilà, en ce qui concerne le rapport à la vérité. Mais alors, il y a chez Marivaux évidemment un respect certainement fondamental, enfin, un respect esthétique des structures des œuvres, c'est-à-dire quand on écrit du théâtre, on ne fait pas du roman, quand on écrit du roman, on ne fait pas du théâtre, etc. Et quand on écrit des journaux et des considérations sur les mœurs, on reste... un peu philosophe et en troisième personne. Alors, cela dit, une fois qu'on a dit ça, Vous avez des considérations philosophiques qui apparaissent chez les personnages de théâtre. Vous avez des dialogues qui peuvent presque être mis au théâtre dans les romans, etc., etc. C'est-à-dire, même si le cadre change, il y a toujours un moment où le style devient le même. À ceci près tout de même que le style des journaux est tout de même beaucoup plus théorique et philosophique que le style du théâtre. Dans le style du théâtre, nous savons tous, quand une femme parle et qu'elle est agitée par les sentiments amoureux, elle énonce des phrases très très courtes. Que dis-je, que faire, quoi, mais non, non vous dis-je, et fi donc à d'autres, je ne le sais point, l'enfant le verrait, vous ne le voyez point.
Oui.
Vous avez
oui.
des phrases très courtes. Et au contraire, dans les journaux, vous avez des phrases beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus méditatives. Mais vous avez aussi des phrases méditatives, quelquefois philosophiques et quelquefois abstraites dans le théâtre, au point que j'ai souvent assisté à des révisions de théâtre de Marivaux, soit quand je suis occupé de la dispute avec Patrice Géraud, quand Brigitte Jacques a monté aussi Le Prince Travesti, et la fausse suivante aussi avec Géraud, c'est que souvent le discours des personnages est si compliqué qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour arriver à le saisir. De ce point de vue-là, c'est l'héritier de Corneille. J'ai souvent parlé avec Marc Fumaroli de ces questions parce qu'il est un admirateur inconditionnel de Corneille et de Marivaux. Je crois d'ailleurs qu'il réfléchit par les temps qui courent sur Marivaux, successeur de Corneille, ou quelque chose de ce genre. Mais il est vrai que, de ce point de vue-là, Marivaux est le successeur des comédies de Corneille beaucoup plus que du théâtre de Molière. Marivaux est connu pour ne pas trop aimer le théâtre de Molière et pour s'en méfier. Et je pense que son modèle était plutôt les comédies de Corneille avec les complexités à la fois précieuses, baroques et aussi classiques qu'on trouvait dans les comédies de Corneille à proprement parler.
Écoutons, si vous le voulez bien, un peu Jean-Philippe Rameau. Je m'endormis donc du sommeil le plus profond et je rêvai que je me trouvais au milieu d'une campagne partagée en deux terres de différentes natures. À droite, ce n'était que fleurs odoriférantes et qu'arbres fruitiers, mais ces fleurs étaient sèches et fanées et les arbres mouraient de vieillesse. La campagne, de ce côté, me paraissait abandonnée. Elle était devenue sauvage.
Pourquoi, disais-je, laisse-t-on inculte un pays naturellement si fertile ? Alors, en jetant ma vue un peu plus loin, je découvris un palais. L'architecture en était noble et majestueuse. Les grâces s'y mariaient avec la majesté et leur accord donnait à l'édifice un aspect touchant et respectable. Je jugeai par quelques ruines que ce devait être un ancien monument et je regardai avec application quand, au travers de quelques arbres, il parut une femme dont la beauté me surprit. Cependant, je remarquai quelque tristesse sur son visage. Elle sourit en me voyant et je m'avançai respectueusement vers elle. Elle sourit en me voyant et je m'avançai respectueusement vers elle pour lui demander où j'étais. « Jeune homme, vous êtes en peine, me dit-elle, et vous ne comprenez rien à tout ce que vous voyez. « J'allais vous prier de m'instruire, lui répondis-je. « Je le veux bien, répartit-elle. « Vous voici dans les terres de l'amour. »
Le spectateur français, extrait de la 6e feuille. Vous qui avez enseigné la psychanalyse, François Regnault, que pensez-vous de ce rêve? Vous pouvez peut-être un peu nous l'analyser.
Mais le problème de ce rêve, c'est que c'est un rêve inventé, certainement. Donc, indépendamment du fait que nous n'avons pas le dormeur ou le rêveur à notre disposition sur notre divan, n'est-ce pas ? Mais je ne suis pas psychanalyste, mais quoi que j'ai enseigné la dite psychanalyse, c'est un rêve qui est en plus interrompu. Alors, je voudrais parler de l'interruption ici parce que vous avez dû remarquer que dans les journaux, c'est un feuilleton. Donc, c'est la grande technique du feuilleton qu'on connaît, qui est propre à l'Angleterre jusqu'à Dickens y compris, et que Marivaux pratique. C'est-à-dire, on écrit une feuille pour plaire au lecteur, et puis la semaine suivante, on continue, et puis quelquefois, on bluffe un peu, c'est-à-dire, on ne sait pas très bien où on va. On ne sait pas très bien ce qu'on a envie de raconter, mais on prend du temps, on boucle son papier, et puis on dit, bon, je trouverai bien d'ici la semaine prochaine à le continuer. Or là, ce rêve, il n'a pas trouvé le moyen de le continuer, c'est-à-dire, il raconte ce rêve sur l'amour, et alors il nous raconte à la fin qu'un monstre guette est dans le palais, alors les visiteurs se demandent ce que c'est, on leur dit, mais c'est ce monstre qu'est l'amour. Mais rendez-vous, enfin, à suivre. Et la fois suivante, rien ne vient et le commentateur de l'offre dit souvent « Ici, Marivaux a abandonné son projet en chemin, il a changé. » Alors, ça donne d'abord l'idée du hasard, de la variété de l'esprit, non pas pusillanime ni sautillant, mais tout de même zigzagant, si vous voulez, de quelqu'un qui, dans le grand style du XVIIIe siècle, va, vient, revient en arrière, repart en avant, et n'a pas un modèle, une structure extraordinairement déterminée, cartésienne, si on veut, de sa méditation. Alors, du coup, nous ne saurons pas la fin de cette histoire, mais il y a un grand nombre de journaux de Marivaux dans lesquels il promet une histoire, une aventure. Il se promet certainement à lui-même de la faire, il termine son papier, il l'envoie au lecteur. Je ne sais pas très bien comment ça se diffusait dans ce temps-là. Enfin, les gens devaient acheter la feuille en attendant la suite, puis la suite ne vient pas. Alors, il y a tout de même une référence sur le monstre qu'on peut trouver. D'ailleurs, j'ai pensé, mais de l'offre la cite, c'est dans la première surprise de l'amour. Vous avez un comte ou un marquis qui est toujours déçu. Alors, commence toujours les pièces, quelqu'un est déçu par une relation amoureuse parce qu'une femme l'a quitté, donc il jure de ne plus jamais aimer. Et évidemment, ça ne tiendra pas, mais parce qu'il rencontre tout de suite une autre femme qui lui plaît. Mais il se promène avec son valet dans la forêt, dans la campagne, et le valet a aussi eu maille à partir avec le sexe féminin, et le valet se promet de lui aussi, enfin, de ne plus jamais aimer, c'est-à-dire le maître lui dit, n'est-ce pas, tu es d'accord ? Les femmes sont perfides, elles nous font souffrir, donc n'aimons plus jamais. Oui, oui, monsieur, oui, oui, il essaye de s'y soumettre. Alors, le malheur est qu'il voit tout d'un coup des oiseaux se bécoter dans les arbres, alors le valet est tout de suite pris de frénésie amoureuse. Et le maître dit au valet, mais rappelle-toi, une femme, ça a des charmes quand on a son approche, c'est tout à fait divin, mais à l'intérieur, c'est comme une caverne, à l'intérieur de laquelle il y a un tigre dévorateur.
Oui,
oui, oui. Évidemment, on pourrait dire, oui, la castration, si on voulait, pourquoi pas. Mais ce qui est tout à fait drôle, c'est que à chaque fois, il le fait répéter à son valet. C'est-à-dire, rappelle-toi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, le tigre, le tigre, le tigre. Et donc, d'une certaine façon, on aurait presque un texte rare de Marivaux dans lequel le fond de l'amour serait terrifiant, serait quelque chose qui accaparerait l'homme dans son entier ou dans ses parties, si on veut, et qui ferait quelque chose dont il devrait se méfier. Alors, évidemment, cette dimension terrible de l'amour est aussi à l'horizon d'une réflexion de Marivaux. Et c'est ça qui rend évidemment l'amour captivant. Ce ne sont pas seulement des sentiments tendres, ce sont aussi des sentiments qui peuvent être cruels, d'où aussi des rapports très cruels. La fausse suivante est une pièce particulièrement cruelle, par exemple, et une des raisons pour lesquelles un grand nombre de metteurs en scène aiment bien la monter, parce qu'ils s'imaginent que c'est le Marivaux cruel, donc le vrai Marivaux. Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait le vrai Marivaux. Je pense que je ne sais pas quel est le vrai Marivaux, mais je préfère personnellement, question de goût, les pièces plus heureuses, enfin celles qui se terminent mieux, ou du moins dans lesquelles l'amour parvient à une espèce de triomphe, comme dans, par exemple, Les Fausses Confidences, dont la fin est tout à fait extraordinaire, et où l'aveu apparaît lorsque Aramane dit avoue enfin son amour, puisque toutes les pièces de Marivaux sont entièrement commandé par le moment où l'un, oui, le moment où l'un va avouer à l'autre, l'homme à la femme ou la femme à l'homme qu'il aime ou qu'elle aime, et lorsqu'elle dit eh bien alors mais madame est-ce que vous m'aimeriez, et qu'elle dit voilà pourtant ce qui m'arrive, et alors là le spectateur respire en disant enfin ils vont cesser de marivauder au grand sens du mot.
Oui oui oui.
Alors là le rêve, nous ne saurons pas la fin du rêve, mais il ouvre vers un abîme, mais peut-être que Marivaux a reculé devant l'abîme, je ne sais pas, pas la réponse.
C'est possible. Mais après avoir rêvé des terres de l'amour, entrons maintenant, si vous le voulez bien, François Regnault, dans le jardin de la beauté que Marivaux décrit dans la deuxième feuille du cabinet du philosophe. Ce jardin fait face à celui du je ne sais quoi.
C'est-à-dire, c'est l'opposition de la beauté et du je ne sais quoi. Alors, vous avez en effet un très très beau récit, là aussi livré dans les journaux. Le palais de la beauté est un palais où tout le monde se précipite, on visite la beauté, on voit une statue absolument magnifique dont toutes les proportions sont sublimes. Tout le monde la regarde et puis on la regarde et on la regarde et au bout d'un moment on s'ennuie et au bout d'un moment on voit que des gens discrètement sortent du jardin, s'en vont et s'avouent finalement que cette beauté n'est pas si intéressante. Mmh. Et puis ils parviennent dans une autre partie de cette
en
nature.
Face, en face, il y a le jardin du je ne sais quoi.
Le jardin du je ne sais quoi. Mmh. Et alors ils ne voient rien, ils ne trouvent rien, ils ne savent pas où c'est. Et alors, ils se demandent, mais où est ce je ne sais quoi, où est ce je ne sais quoi ? Et le je ne sais quoi répond, mais je suis partout là où ça bouge, je suis partout là où ça se meut, je suis partout là où les charmes se répandent, etc. Alors là, c'est certainement Marivaux tout entier, c'est-à-dire le charme féminin est mobile, les femmes sont diverses, et donc la beauté est froide et n'inspire pas du tout l'amour. Alors, ce thème du je ne sais quoi, il est certainement emprunté, il y a beaucoup de phrases qui vont dans ce genre, dans l'œuvre de Baltasar Gracián, le grand écrivain espagnol jésuite à qui Marivaux doit beaucoup et qui est considéré comme un modèle et qui était traduit au début du XVIIe siècle et connu au XVIIIe siècle, qui avait écrit L'homme de cour et tous ses traités de rhétorique dans lesquels ce qui est considéré comme l'essentiel dans le style, c'est d'arriver à la pointe, au je ne sais quoi, à quelque chose qui n'est pas exprimable seulement par la raison. Et le je ne sais quoi, donc que Marivaux n'a pas inventé, lui semble être évidemment, je dois dire que cette opposition de la beauté et du je ne sais quoi, cette opposition de la beauté harmonieuse, parfaite, immobile et froide, je ne sais quoi, mouvant, sans doute imparfait, constamment changeant, est tout à fait repérable dans toute son œuvre. Je veux dire, ici, tout change dans le monde, tout passe, et heureusement que tout passe et tout change, malgré le fait que ce monde est peut-être décevant. Alors, ici, on débouche sur une problématique sur laquelle il faudra revenir, qui est celle du mensonge et de la vérité, dont le fond est, je pense, est théologique, c'est-à-dire, Marivaux est chrétien. Il faut y insister là-dessus, parce que autant qu'on le sache, c'est quelque chose qui le distingue, non pas des philosophes en général, après, il y a un certain nombre de philosophes qui sont chrétiens, mais on a le sentiment, difficilement repérable, que la foi religieuse lui importe. Il y a des textes qui vont tout à fait dans ce sens, même si ça n'est pas un mystique. Pas Sainte-Thérèse d'Avila, mais il y a quelque chose de pascalien chez lui, quelque chose de, non pas janséniste, pas du tout, mais quelque chose de catholique. J'entends par là que la nature et la grâce doivent faire bon ménage. C'est-à-dire, il y a certainement le péché originel, c'est ça qui fait que le monde est menteur, mais en même temps, au travers du monde menteur, et dans la, on doit retrouver la nature non corrompue. Et alors, il y a des textes extraordinaires. Je voudrais citer le texte qui se trouve dans Le Monde Vrai, qui est un texte absolument magnifique, et dont je me suis servi souvent d'ailleurs, à la fois lorsque Patrice Chéreau a monté la dispute, on avait rajouté un long prologue, parce qu'il fallait oui. rendre compte, il fallait faire en sorte que la personne qui s'appelait Hermiane, que c'est le personnage qui jouait Hermiane, ait un rôle plus grand que ce qu'elle avait dans la pièce de Marivaux, parce qu'il est destiné à la grande actrice italienne Valentina Cortese, qui d'ailleurs ne l'a pas jouée, parce qu'elle avait un engagement de cinéma. Mais nous avons choisi un certain nombre de textes philosophiques de Marivaux, dont nous avons fait un prologue, qui a très réussi, puisque tout se passait avec des instruments d'optique devant dans la salle, et puis ensuite le prince et la princesse passaient sur la scène, par un pont suspendu au-dessus de la fosse d'orchestre, et à ce moment-là commençait la dispute proprement dite. Mais c'était un montage de textes de Marivaux, je nageais assez bien dans l'œuvre de Marivaux, nager au sens de ne pas sombrer, n'est-ce pas ? Et pour pouvoir, on m'aurait demandé de trouver un texte de Marivaux où il soit question de, je ne sais pas quoi, de sirop d'orgeat, j'aurais dit « Ah ben oui, il y en a un, je ne sais pas. » Mais le texte est le suivant, et il dit, c'est dans le texte du Monde Vrai, auquel on reviendra peut-être ensuite, mais oui. Il dit « Mais que gagnerais-je à cela, me direz-vous peut-être. En me faisant connaître les hommes, vous allez me dégoûter d'eux. Je ne me soucierai plus de leur commerce. Je m'occupe aujourd'hui du soin de mériter leur estime, il m'est doux de l'obtenir ou de croire l'avoir obtenue, et je n'en voudrai plus. Je perdrai celle que j'ai pour eux et qui me fait plaisir. Mon cœur et ma raison romperont avec eux. Ne serais-je pas bien d'avancer ? Non, vous dis-je, laissez-moi comme je suis. Ma condition dans ce monde est de jouir et non pas de connaître. Je sais bien en gros que les hommes sont faux, que dans chaque homme, il y en a deux, pour ainsi dire, l'un qui se montre et l'autre qui se cache. Celui qui se montre, voilà le mien aujourd'hui. Voilà celui avec qui je dois vivre. À l'égard de celui qui se cache, sans doute il aura son tour pour être vu. Car enfin, il faudra que tout se retrouve. L'éternité des temps n'est pas toute consacrée aux mensonges. Mais ne dérangeons point l'ordre des choses, n'anticipons point sur les spectacles. Si de même que nos corps sont habillés, nos âmes à présent le sont aussi à leur manière, le temps du dépouillement des âmes arrivera, comme le temps du dépouillement de nos corps arrive quand nous mourrons. Mais pour aujourd'hui, je m'en tiens à ce que je vois. Gardez vos découvertes, je ne vous les envie point, et je vous crois fort à plaindre de les avoir faites. Moi, point du tout, vous vous trompez. Je ne saurais vous exprimer le repos, la liberté, l'indépendance dont je jouis. Je n'ai jamais été si content, je ne me suis jamais diverti de si bon cœur que depuis ma découverte. Je suis à la comédie depuis le matin jusqu'au soir. Le texte que je citais tout à l'heure. Alors, ce texte est évidemment une référence biblique, enfin, ou évangélique, à l'idée du dépouillement des âmes après la mort, et avec une référence théologique très certaine sur la résurrection des corps, et certainement emprunté à Saint Jean, je crois, nous voyons, en tout cas au Nouveau Testament, nous voyons pour le moment par énigme, mais ensuite nous verrons Dieu face à face. Et il y a certainement le fond théologique très certain, catholique, qui est derrière Marivaux, et celui-là, c'est-à-dire, pour le moment, nous sommes voués à la jouissance des apparences, mais un jour nous verrons la vérité face à face. Si nous sommes bons, il y a une phrase très belle de lui qui est « Dans ce monde, il faut être trop bon pour l'être assez ». Et évidemment, vous avez entendu cette phrase tout à fait étonnante, « Ma condition dans ce monde est de jouir et non pas de connaître ». Je ne sais pas si Marivaux pense cela tout à fait, puisque dans les journaux, il cherche à connaître plutôt qu'à jouir, mais c'est tout à fait typique des personnages de son théâtre, en tout cas. Vous avez les personnages de son théâtre qui sont toujours dans un essai de trouver la vérité des cœurs, en même temps ne veulent pas trop la découvrir, puisque qu'est-ce qu'on peut découvrir ? On risque de découvrir la haine derrière l'amour, la jalousie derrière la foi donnée, l'inconstance.
Et notre propre inconstance.
L'inconstance du monde, etc. Par conséquent, nous sommes toujours dans une inquiétude dans tous les sens du mot, c'est-à-dire mouvement, impossibilité du repos, dans une inquiétude à l'égard de la vérité. Par conséquent, tantôt nous voulons ne pas connaître la vérité parce qu'elle risquerait de nous porter en rage ou de nous faire souffrir, tantôt, et par conséquent, nous désirons jouir, c'est-à-dire se contenter de la vie telle qu'elle est, telle qu'elle va, telle qu'elle vient, des apparences, etc. Alors là, vous avez tout le théâtre est fait, tout le théâtre de Marivaux est évidemment fait là-dessus, sauf qu'on découvre la vérité à la fin quand les amants se déclarent leur amour. Et si ils ne se déclarent pas leur amour, alors ça finit mal. Ou alors ils changent d'amour, comme dans la double inconscience, où visiblement, ce qu'on attend. Dans une pièce où les amants avoueront leur amour, on attend l'aveu. Dans une pièce où l'inconstance est au poste de commandement, on attend le moment où, étant donné qu'ils commencent par s'aimer, c'est-à-dire étant donné qu'ils se sont déjà avoué leur amour, on attend le moment où ça va changer. C'est-à-dire quel est le premier qui va tout d'un coup se lasser de l'autre.
Dire je ne t'aime plus. Oui, oui. Oser dire je ne t'aime plus. Alors bon, il y a cette problématique que vous venez d'exposer du face-à-face avec Dieu aussi, mais aussi il y a le face-à-face avec la mort dans une feuille qui m'a beaucoup intéressée. La narratrice, c'est une narratrice qui relate une période de sa vie, mais le grand intérêt de cette feuille est que Marivaux saisit ce personnage au moment où celui-ci traverse une crise existentielle. En effet, cette femme, la narratrice, va saluer une amie. Or, elle s'aperçoit, après l'avoir embrassée, que son amie est morte, là, dans son fauteuil. Il s'ensuit pour la narratrice de ce face-à-face, justement, brutal avec la mort, une profonde crise.
Oui, oui, c'est un texte étrange et triste, puisque elle s'avance, elle croit voir, si je me souviens bien, la femme de dos.
Oui,
et elle s'approche et elle voit qu'elle est morte.
Oui,
elle découvre qu'elle est morte. Et là, c'est une espèce de vanité au sens de la peinture, c'est-à-dire tout d'un coup,
tout
on
fait.
Voit la tête de mort.
Oh.
Et c'est une méditation grave parce que, à ma connaissance, il n'y a pas dans le théâtre de Marivaux de considération sur la mort, enfin de considération triste sur la mort. Personne ne meurt, mais il n'y a pas.
Oui, donc c'est assez étonnant.
Menacer de se tuer, menacer. Enfin, on peut menacer de mourir d'amour, de ne plus voir personne, etc. etc. mais ça, personne n'y croit. Mais là. La jeune fille qui a vu ça conclut en disant « Je me suis aperçu pour la première fois de ma vie qu'un jour j'allais mourir ». Alors il y a certainement ici une espèce de serment sur la mort à la Bossuet, si on veut, que Marivaux adresse à son lecteur, ce qui est tout à fait, on pourrait dire, malvenu, dans une feuille de chou, enfin dans une feuille de journal, où on s'attendrait plutôt à voir décrire les mœurs de tous les jours ou des événements de la vie quotidienne, plutôt que cet événement tragique. Mais enfin, reste que Marivaux a voulu passer par là.
Mais la mort surgit justement à un moment où en fait, elle fait quand même partie de notre quotidien, finalement.
Tout à fait.
À preuve, on va chez une amie et cette amie est morte. Et donc, d'un seul coup, la mort surgit.
Alors, il ne recule pas devant le fait de le décrire et de le décrire de façon même assez morbide. C'est-à-dire avec tous les traits tirés, tous les...
Et la narratrice s'évanouit. Et quand elle se réveille, finalement, elle est différente. Quelque chose s'est passé pour elle.
Il y a eu quelque chose comme une espèce de révélation intime. Il y a aussi, d'ailleurs, si on prend la vie de Marianne, il y a aussi tous ces moments où une jeune fille doit rentrer au couvent. Et alors, ça n'est pas la mort, mais c'est quand même une mortification. C'est marqué par le fait de quitter la société ou d'avoir des amours malheureuses ou d'être pauvre et où on rentre au couvent, non pas par vocation religieuse, mais simplement... par dépit ou par impossibilité de faire autrement. Alors évidemment, là, il y a une rencontre mortelle avec une vie d'abandon et de déréliction. Ça, il rencontre ça aussi. Il a une fille qui est devenue religieuse aussi.
Oui.
Tout à fait.
Oui.
Alors on ne sait rien, donc on ne peut pas savoir si c'est une religieuse de convention ou une religieuse de foi. Si on considère que Diderot, à la même époque, écrit La religieuse qui raconte des histoires tout à fait différentes et... est tout à fait hostile, évidemment, à la prononciation de vœux. Il me semble que lorsque Marivaux aborde la vie religieuse comme il le fait dans la vie de Marianne, c'est évidemment sous la forme tout de même d'une certaine rencontre de la pénitence et de la déréliction de la part d'une jeune fille qui a envie de vivre en réalité et d'aimer et qui se trouve soumise par des règles de la société à un sort déplorable. We'll be right back.
Monsieur Regnault, tout à l'heure, vous avez fait référence à Jean l'évangéliste, mais par rapport à Marivaux, c'est curieux cette référence. Vous pourriez en dire un peu plus ?
Oui, j'avais proposé comme titre d'ailleurs à notre conversation « Plein de grâce et de vérité ». C'est une formule qui est au début de l'évangile de Saint Jean et qui m'avait frappé à propos de Marivaux, puisque c'est entièrement un problème de la vérité, mais aussi évidemment un problème de la grâce. Alors quand on dit la grâce, il est tout à fait clair que d'un côté, ça veut dire la grâce au sens divin, c'est-à-dire la façon dont Dieu envoie ou n'envoie pas sa grâce avec toutes les problèmes de la prédestination, du péché originel, etc., dans la théologie chrétienne. Mais évidemment, ça veut dire aussi, et ça n'est pas un hasard, la grâce féminine, ou la grâce des corps, ou la grâce des charmes amoureux, etc. Et on pourrait dire, les pièces de Marivaux s'appellent le jeu de l'amour et du hasard, mais on pourrait appeler ça aussi les jeux de l'amour et de la grâce, ou les jeux de la nature et de la grâce. Le principe de la nature et de la grâce, c'est un traité de Malebranche. Mais la problématique de Malebranche...
Que Marivaux lisait beaucoup,
est tout à fait proche de celle de Marivaux. C'est un cartésien qui est lui-même prêtre et oratorien, et si je ne me trompe, qui est très grand philosophe par ailleurs, et dans lequel, catholique, par opposition au protestantisme, donc pour lequel la nature n'est pas à ce point déchue que nous ne puissions, au travers de la grâce, ou au travers du moins de ses capacités naturelles, retrouver quelque chose de la nature originelle, même si le péché originel marque la nature humaine. Bon, c'est, de ce point de vue-là, Marivaux n'est guère protestant, c'est vrai. Et il est évident que, même si son théâtre est laïque, alors il faut insister là-dessus, ce n'est pas un théâtre chrétien, ça n'est pas du tout polyeucte, il n'écrit pas du tout. Et même les références religieuses, il se garde bien de les faire jouer au théâtre italien ou au théâtre français. Il a beaucoup écrit pour le théâtre italien, c'est les deux tiers, trois quarts de son théâtre sont écrits pour les Italiens. Il ne s'agit pas de représenter des conversions ou des événements religieux sur le théâtre. Donc de ce point de vue-là, c'est un théâtre absolument laïque au grand sens du mot. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que la grâce, qui est repérable sur les deux sexes, il faut bien le dire, parce qu'il dit lui-même à plusieurs reprises que ce n'est pas que les jeunes femmes, mais les jeunes gens aussi, parce que comme il a une capacité... de virtuosité extraordinaire, il peut se mettre, lorsqu'il écrit sur les femmes, de se mettre à la place d'un jeune homme, mais lorsqu'il écrit sur les jeunes gens, de se mettre à la place d'une jeune fille. Donc là, comme tous les grands écrivains de théâtre, il peut être à la fois homme et femme, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant, enfin tout ce qu'on veut à la fois.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, excusez-moi de vous interrompre, c'est aussi dans ses romans, par exemple dans Le paysan parvenu, finalement le personnage principal, Jacob, se marie de façon assez naturelle, enfin si on peut dire ça, avec une femme d'un certain âge, ce personnage de la femme de 50 ans en fait, et dans laquelle Marivaux voit beaucoup, le narrateur voit beaucoup de charme et de grâce, et souvent il dit, malgré son âge ou avec son âge, elle avait beaucoup de grâce et de charme. Et ça arrive assez souvent dans ces...
Tout à fait, rapport. C'est que la grâce est du côté du je ne sais quoi. Il y a la nature qui est du côté de la beauté, mais nous avons vu qu'elle
n'est pas seulement du côté de la jeunesse. C'est ça
oui,
que je voulais
mais
nous
avons vu que la beauté
Marivaux.
Peut être ennuyeuse. Mais la grâce, évidemment, peut être chez absolument n'importe quelle femme de n'importe quel âge et n'importe quel homme aussi, de n'importe quel âge. Et évidemment, chez l'espèce humaine, je ne vois pas que ça se prête aux animaux, ni à la nature aussi, je veux dire, au paysage. Alors évidemment, on est beaucoup plus du côté de Watteau que de Poussin, pour prendre des références picturales. Oui. C'est-à-dire, en effet, Watteau, la forêt est mystérieuse, on s'embarque pour s'y taire, on ne sait pas où on va. La grâce commande beaucoup plus que l'harmonie naturelle. On n'est pas du côté du nombre d'or, on est du côté de l'impalpable, de l'invisible, du miroir des eaux et de thèmes dont on pourrait dire qu'ils sont baroques si on les reprend au début du XVIIe siècle, mais qui sont tout à fait à la dialectique de la nature et de la grâce qu'on trouve chez Marivaux. Alors il ne répugne pas à la nature, mais je pense qu'il faut que, au travers de la nature, on puisse toujours trouver quelque chose qui la dépasse et qu'on pourrait appeler la grâce.
Le cabinet du philosophe est donc le dernier journal que Marivaux rédigea. Ce journal comprend 11 feuilles. Elles parurent en 1733. Marivaux était âgé de 45 ans. C'est donc une œuvre de la maturité. Et dans les dernières feuilles, le narrateur voyage dans le monde vrai, nous en avons parlé tout à l'heure, mais voudriez-vous nous guider un peu dans ce monde vrai ? Qu'est-ce que c'est que ce monde vrai ?
Alors, c'est un texte étrange, puisque ce que je viens de lire, d'ailleurs, enfin, ce que j'ai lu concernant l'éternité des temps n'est pas toute consacrée aux mensonges, etc., sur la vérité de la vie et de la mort. Ça fait partie de ce monde vrai. Le monde vrai s'étend sur un grand nombre de feuilles du cabinet du philosophe. Et le monde vrai veut nous faire croire qu'on quitte le monde faux dans lequel nous vivons, Paris, avec sa mondanité, etc., pour aller dans le monde vrai. Donc on part en voyage et il s'en va vers le monde vrai. Et tout ce qu'il décrit est tout à fait étrange, puisque lentement, alors il y a un certain nombre d'aventures, de rencontres, etc., qui lui font se dire à tout moment, mais c'est curieux, il me semble que je connais ces gens-là, il me semble que je connais cette ville-là, il me semble que je connais ce monde-là, ça ressemble beaucoup à Paris, etc. Et alors, ça se termine où en réalité, on lui dit, bon, maintenant, on va revenir là d'où on est parti, et en réalité, on s'aperçoit qu'on n'est pas parti. Alors, je lis la fin, là, dans la dixième feuille. Ce cocher ressemblait si fort au mien, et par le ton de voix et par la figure, il me représentait si exactement le mien, son cocher réel, par opposition à son cocher vrai, si on veut dire, le cocher du monde réel et faux, par opposition au monde vrai et idéal. Et par le ton de voix et par la figure, il me représentait si exactement le mien, jusque dans l'habit même, car il portait ma livrée, qu'il me fut impossible d'y tenir davantage. « Monsieur, dis-je alors à mon guide, je ne saurais rester dans l'embarras où vous me mettez. En vérité, l'esprit m'en tourne. Dites-moi naturellement ce que je dois penser de tout ceci. » Mon guide, alors, ne me répondit que par un éclat de rire. « Parlez, ajoutai-je, en le pressant. « Sont-ce là mes gens ? En pouvez-vous douter ? Reprit-il alors. « Mais, lui dis-je en reculant, si ce sont eux, par quelle aventure se trouvent-ils ici ? Et dans une maison comme la mienne, vous les avez laissés chez vous, et vous les y retrouvez, voilà tout le mystère, me dit-il. Quoi, m'écriai-je alors, c'est donc ici notre Paris, et vous m'assurez que je suis chez moi, je m'y perds. C'est notre navigation qui vous a fait illusion, me répondit-il. Vous avez cru que nous allions loin, et que je vous menais dans un pays inconnu, je vous avais promis un monde que j'appelais le double du nôtre, il y a longtemps que nous voyageons, nous nous sommes arrêtés sur les côtes de France. Vous vous êtes imaginé à la descente du vaisseau que nous étions enfin arrivés à ce nouveau monde, et préoccupé comme vous l'étiez de cette idée dans laquelle j'avais soin de vous entretenir, vous avez pris la France et Paris où nous sommes pour cette France et ce Paris imaginaire dont je vous disais avoir fait la découverte. Donc on n'a pas bougé, on a fait semblant de voyager.
Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire
Alors ce qu'il veut nous dire, c'est que là on retrouve...
Ce jeu d'illusion. En fait.
Mais oui. On retrouve ce que j'évoquais de la vitre tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de distance qui, c'est une topologie étrange, puisque c'est une distance qu'il a par rapport au monde, qu'il décrit comme s'il en était éloigné, et en réalité, ça n'est rien d'autre que ce monde-là, comme s'il n'y en avait qu'un seul. Donc ici, il y a certainement une espèce de réflexion métaphysique sur la fiction, c'est-à-dire... La vérité advient sur le mode de la fiction, et c'est lorsqu'on croit qu'on est ailleurs, qu'on est en réalité là, et c'est lorsqu'on croit qu'on est dans un autre temps, qu'on est en réalité maintenant, et c'est lorsqu'on croit voir d'autres gens avec un regard nouveau, qu'en réalité on les pénètre le mieux et qu'on entre dans leurs âmes. Donc il y a ici une distance pour rien à laquelle il faut donner, je crois, le nom de fiction. Bon, je prends un exemple qui est tout à fait clair, c'est ce qu'on pourrait appeler chez lui les pièces à île, comme une île déserte. Alors, île déserte ou peuplée. Vous savez qu'il y a trois pièces qui se tournent autour d'une île, et l'idée en vient sans doute là aussi de Balthazar Gracian, qui semble-t-il est le premier à avoir donné à la littérature occidentale l'idée de l'île déserte, qui a été reprise ensuite par Robinson Crusoe, Defoe, etc. Ces exemples, ces livres sont très très connus au XVIIIe siècle. Alors, Marivaux écrit l'île des esclaves dans laquelle les esclaves prennent le pouvoir sur les maîtres, l'île de la raison dans laquelle on essaye de... Les gens qui sont fous, déraisonnables, essayent d'être réglés en subissant une espèce de rectification, si on veut, pour redevenir raisonnables. Et ceci se marque, c'est que quand ils perdent la raison, ils deviennent tout petits, et quand ils regrandissent, ils redeviennent leur taille normale. Chose difficile à faire. J'aimerais un jour voir ça sur un théâtre. Troisième grande référence, c'est la nouvelle colonie où les femmes prennent le pouvoir sur les hommes.
Oui.
Et puis tout rentre dans l'ordre pour finir. Mais il y a tout de même un moment où les femmes décident de déclarer leur amour les premières aux hommes, etc., etc. Et donc, il n'y a que des femmes sur la scène. Et puis l'autre, ça n'est pas une île à proprement parler, mais c'est la dispute, c'est-à-dire oui. L'expérimentation faite sur les adolescents où on doit se demander...
Sur un territoire
complètement fermé.
Coupé de tout le reste du monde.
Coupé du reste du monde et dans lequel on doit faire une expérimentation sur des adolescents pour vérifier lequel des deux sexes a été le premier à consentir en amour. C'est l'expérimentation faite sur des adolescents gardés jusqu'à l'âge de 20 ans dans l'isolement complet. Et la pièce ne conclut pas, et même ça conclut très mal, puisque la princesse à qui on a proposé l'expérimentation dit cet Azor et cette Aiglée, c'est le jeune homme et la jeune fille, me sont tous les deux insupportables, partons, je voudrais pas avoir. Et là, c'est vraiment, je n'ai pas besoin de connaître les hommes, c'est une horreur.
Oui, la fidélité est des deux côtés, autant des hommes que des femmes.
Et alors, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que les pièces à île sont une distance qui est prise évidemment avec le continent terrestre, si on veut, comme le XVIIIe siècle en fait constamment l'expérimentation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça serait les aveux, quelles sont les connaissances qui viennent quand on est aveugle, les lettres sur les aveugles de Diderot, lettres sur les sourds muets, le mythe du bon sauvage, l'origine de l'inégalité de Rousseau, etc. Tout le XVIIIe siècle est là concerné dans sa problématique sans doute la plus profonde. Et ça vient des nouveaux essais sur l'entendement de Locke, des réflexions de Leibniz sur Locke, etc. Et Marivaux plonge entièrement là-dedans, la dispute est entièrement prise dans cette problématique. Et évidemment, la distance de l'île, c'est qu'au travers de l'île, au travers du miroir de l'île, on pourrait dire, de la longue vue au bout de laquelle nous apercevons l'île, ça nous renvoie en réalité à notre propre situation. Donc on change la vue, on invente une fiction lointaine, on voyage au bout du monde, et en réalité, c'est pour découvrir le monde vrai qui n'est autre que le nôtre. Ce monde vrai qui n'est rien.
C'est-à-dire la nécessité de changer de point de vue pour voir autrement, pour ne plus être enfermé dans notre point de vue habituel.
Absolument.
Pour avoir un regard neuf sur les choses. En ce sens-là, oui, effectivement, il est plein dans le 18e.
Tout à fait. Et la vérité est de l'ordre d'une thèse de Lacan, enfin, on va la reprendre, la vérité est de l'ordre de la fiction. L'exemple qu'il prend est un exemple très simple, c'est il n'y a rien de plus vrai dans Hamlet que la pièce de théâtre qu'on joue, puisque c'est ça qui révèle la culpabilité de l'usurpateur. Donc Hamlet fait jouer la pièce devant son oncle pour que son oncle révèle qu'il a tué son père. Et d'une certaine façon, c'est dans la fiction, à l'intérieur de la fiction, que la vérité surgit. On pourrait appliquer ça à tout le théâtre de Marivaux.
De Marivaux, tout à fait. Oui.
À toutes ces pièces à île et à toutes ces hypothèses sur le monde vrai qui est un monde lointain dans lequel il faut voyager et qui n'est finalement que le nôtre. N'est-ce rien que d'être un autre? C'est une réflexion tout à fait étonnante d'Aiglée dans la dispute. Elle a aimé d'abord le premier garçon qu'elle a rencontré, et puis elle tombe amoureuse du deuxième garçon. Alors on lui dit, mais vous êtes infidèle, c'est pas bien, vous êtes inconstante. Et vous étiez habituée au premier, et tout d'un coup, vous tombez amoureuse d'un autre. Et alors la réflexion est tout à fait extraordinaire. N'est-ce rien que d'être un autre?
Est-ce que ce sera votre mot de conclusion?
Ah, tout à fait.
Tout à fait. Donc nous avons raison d'aimer Marivaux. Quand je dis nous, je veux dire le public français qui, à chaque saison théâtrale, se presse pour voir ses pièces. Il n'est pas superflu, je pense, de préciser à l'attention de nos auditeurs étrangers que Marivaux est l'un des auteurs les plus joués en France et qu'il y est aimé sans doute autant que Molière. Soyons donc spectateurs du théâtre de Marivaux, mais lisons également ses romans et ses journaux. Notre amour pour sa pensée en sortira grandi, car enfin, si le miroir que Marivaux nous tend ne nous dit pas que nous sommes beaux, il nous dit comment être vrai.
Ainsi s'achève le cycle Marivaux, un philosophe et l'amour, un cycle de 4 émissions préparées et présentées par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie et pour la prise de son et la réalisation Lucien Pénaud.